particulier, moi, dans mes conceptions. Il faut que j'ai un espace qui me... Voilà, on s'adapte avec les gens qui sont tordus. Alors, je me présente, Serge Côté Tordu. C'est la traduction de mon nom, hein, donc Serge ou Sergueï Krivobok, littéralement Côté Tordu. Jésus est venu pour les gens qui sont tordus et pas ceux qui sont droits. Je n'en ai jamais trouvé. Et c'est pour ça que Jésus est venu là. Permettez-moi, je suis long parce que... Enfin, des fois, je suis assez long, comme je suis payé au mot. Je voulais peut-être vous faire un petit... Est-ce que tout le monde me connaît ? Non. Alors, je ne cherche pas à sortir mon pédigré pour être connu, hein, mais simplement, je vais juste me présenter, puis j'ai deux pensées en ce début. Alors, je vais peut-être commencer par ces deux pensées. Rien que dans la louange, le message était fait. Pas celui que je vais apporter, mais Dieu est en train de parler au travers des chants qui ont été donnés, surtout en ces temps. Le premier et le dernier qui englobe tout l'ensemble. Merci pour la louange. Oui, l'abondance, c'est fini. C'est fini l'abondance. Je parle de pour la vie terrestre. C'est fini, mais le meilleur est devant nous. Amen. Oui, il y aura des temps difficiles. Armons-nous, comme dit l'apôtre Paul, de souffrir pour le Christ, quel que soit le type de souffrance. Mais nous sommes équipés. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous et Jésus est avec nous. Et rien ne se perdra si nous demeurons en lui. Amen. C'est pour ça que ce dernier chant, qui est un des premiers chants que j'ai appris à 19 ans quand je me suis converti, je parle de ça en 1979, ça vous donne mon âge. C'est merveilleux. Je louerai, pas je loue, mais je louerai aujourd'hui, demain, après-demain. Quel qu'il soit, qu'est-ce qui va m'arriver ? Pédigré, bon, Serge Krivobok, marié, 4 filles, grand-père, 3 petits-enfants, 2 petites filles et 1 garçon. Voilà la joie, hein, de cela, de cette réalité. La grâce de Dieu que mon couple tient toujours, malgré le fait que je sois un côté tordu. Voilà. Je suis né, mon prénom Serge, vous connaissez ? On va en parler. Vous savez là, que votre nom n'est pas dû au hasard. Serge veut dire serviteur de Dieu. Et je suis né le jour de la Saint-Pasteur. Hein, ce qui m'a aussi été mon deuxième appel ensuite. Converti à 19 ans, persécuté pendant 1 an, plus d'un an, plusieurs tentatives de homicide volontaire sur ma personne, dont une fois j'ai cru que c'était fini, mais Dieu m'a toujours gardé dans ma famille, cela. Je peux le dire, mais ce n'est pas d'enregistrement, j'espère pour ça, mais bon, voilà. Dieu est bon. Et il redresse petit à petit, ce n'est pas fini avec moi. Je suis encore tendu sur certains points, entre autres mon cou. Voilà. Alors, c'est une joie de pouvoir apporter ce message dans cette série sur ceux qui doutent. Ce n'est pas un péché de douter, vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas un péché. C'est le doute fait partie, pour moi, je peux me tromper, de ce cheminement de vie. Abraham, le père des croyants, il a douté. Alors je vous invite, je n'ai pas fait de projection, je vous ai dit, à titre secondaire, je suis donc pharmacien, enseignant, chercheur à la fac de médecine, pharmacie, voilà, botaniste, mycologue, j'ai besoin des fois d'aide. Donc là, je n'ai pas été le bon prof, je n'ai rien préparé en projection. Mais je vous invite à ouvrir le livre de vie et d'aller dans Genèse 17. On va lire les versets 1 à 17. On restera sur une traduction second. Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. J'ai plus 20 ans. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Tout mâle parmi vous, voilà, après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 99 ans, 90 ans, décidément avec les âges, aujourd'hui je m'en mêle les pinceaux, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, c'est sûr. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Israël, je t'ai exaucé. Je fais une petite parenthèse. En d'autres termes, tu as voulu une descendance, ben, tu l'as eue. Je t'ai donné. J'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il est circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui a donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Tout ça, ce n'est pas pour rien, ces détails. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Alors, dans cette, je dirais, première exhortation, dans l'ordre des différents personnages que vous allez voir dans cette série d'exhortations de ceux qui ont douté à un moment de leur vie, je suis obligé de revenir sur la vie d'Abraham pour qu'on puisse comprendre ce passage de Genèse 17. Qu'est-ce qu'il dit ? Dans Genèse 12, je lis, l'Éternel dit à Abraham, « Va dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il y a déjà une première révélation, contact avec Dieu. Il a 75 ans. Là, c'est 99 ans, ce que nous venons de lire. Bon. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et alors il est dit ensuite, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Il est là, qu'il est mentionné qu'il a 75 ans et qu'il sortit de Charan. Il y a, alors l'hébreu est extraordinaire, je ne connais pas l'hébreu, ne vous inquiétez pas. Par contre, je connais le numéro Strong. Est-ce que vous travaillez avec les numéros Strong? Prenez l'UR biblique, hein, le site internet, il suffit de cliquer, et puis la petite, ça s'ouvre, et puis on vous dit ce qu'il en est. Avec les racines primaires, la richesse de l'hébreu qui permet de comprendre le sens que Dieu donne, et pourquoi tel lieu s'appelle ainsi. Dieu appelle Abraham à sortir. Je ne sais pas comment s'est fait cette révélation, mais en tout cas, il sait que Dieu lui a parlé. Je sais que Dieu m'a sauvé à 16 ans de la mort. J'en garde les séquelles avec cet accident. Mais dans mon cœur, au fond de moi, j'ai dit, je sais, ce jour-là, je sais que Dieu m'a sauvé. Pendant 3 ans après, je ne suis jamais rentré dans une église. J'ai tombé l'église protestante, peu de temps après ma confirmation, et j'ai vécu en cherchant la vérité partout. Sauf là, il fallait la trouver. Mais c'était mon cheminement. Il y a 19 ans, avant que je me suicide, Dieu se révèle à moi en une nuit. Il y a des appels comme ça à un moment dans vos vies. Vous les jeunes, vous les moins jeunes. On sait au fond de son cœur que là, il y a eu la main de Dieu, qu'il y a eu un appel. C'est encore confus, c'est pas encore clair. Mais on avance. Et là, il sortit de Charan. Littéralement, ça veut dire ce qui est carbonisé, ce qui est sec. Bon, soulignons qu'il a fallu que le père d'Abraham, Terach, meure pour qu'Abraham soit le chef du clan et puisse avoir l'autorité pour sortir de Charan alors que Dieu lui a dit « Je t'emmène plus loin ». Et là, on sait, il prit Sarai, sa femme, Lot, tous les biens qu'ils ont et ils partirent pour le pays de Canaan comme Dieu a montré à un moment donné lorsqu'il était à Charan. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Et c'est, tout ça est important encore. Et vous allez comprendre encore toutes ces significations, bien que je ne rentre pas dans les détails, il y a d'autres choses encore à dire, mais bon, autrement, ce serait trop long. Je vous laisserai aussi plus le plaisir de chercher, de découvrir. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu, quand il arrive à Canaan, nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Là, à ce moment-là, l'Éternel apparut à Abraham. Comment? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est apparu. « Je donnerai, il lui dit, ce pays est à postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui était apparu. » Sa spiritualité savait qu'il fallait élever un autel, que ce soit les types de dieux, ça a toujours été comme ça. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il va vers la lumière, mes amis. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel, littéralement maison de Dieu, à l'occident, et Haï, côté. Maison de Dieu et Haï. Et Haï, ça veut dire tas de ruines. Tiens donc. Et Haï se trouve à l'Orient. Et l'Orient, dans cette signification-là, veut dire ce qui vient d'autrefois. Ce qui vient d'autrefois, c'est tas de ruines. Et je vais vers la maison de Dieu. Il a 75 ans. Peut-être un peu plus. Donc, vous voyez, ce parcours initiatique qui n'est pas dénué d'erreurs. On le sait. Si on lit l'histoire d'Abraham, il y a la famine qui arrive. Et où trouver une solution à cette famine qui sévit sévèrement? Pas en Égypte. Nous savons que l'Égypte, c'est l'image du monde sans Dieu. Et quand vous relisez ce passage de Genèse 12, verset 10 et suivant, il n'est pas mentionné qu'Abraham dresse un autel. Qu'est-ce que je constate humainement? Il y a une famine, l'Égypte s'est remplie, les silos sont remplis de nourriture, de blé, on va en Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit Dieu? Tu vas à Canaan. Est-ce qu'il adresse un hôtel? Niette. Décision humaine. Dans une situation grave. Donc il n'a pas dressé cette fois-ci d'hôtel pour invoquer l'Éternel. Il va en Égypte. Bon, nous le savons, par peur d'être tué à cause de la beauté de sa femme. Il se fait passer pour sa sœur. L'éloge, à ce moment-là, on ne touche pas la famille. Vous savez, il y a une chose dont j'ai constaté, vous aussi, la peur, c'est vraiment la conseillère la pire qu'on peut avoir. Et ça pousse au mensonge, la peur. La peur pousse au mensonge. Combien de fois Dieu, dans la Bible, et aussi il est écrit, ne crains pas. Combien de fois Dieu le dit, combien de fois Jésus aussi nous le dit. Ne crains pas, je suis avec toi. J'ai une petite parenthèse, ce n'est pas prévu. Il y a un temps, c'est affreux avec moi, je fais des parenthèses, c'est une horreur. Il y a un temps où Jésus s'est retrouvé coincé pour qu'on l'accuse avec la femme adultère. Alors attention, hein, ne croyons pas que Jésus est Dieu. Jésus, c'est Dieu fait homme. Jésus est pleinement homme, avec les peurs, avec les tentations. Non, oui ou non? On est d'accord. Il a eu peur de la croix. Ça tremblait. Il a dû intercéder, il jeûnait. Et quand on a voulu le coincer, et c'était difficile ce problème, ben, Jésus... Il s'est recentré. Ça, c'est typiquement les termes grecs. Il a été rentré en lui-même. Il a pu regarder autour de lui. Hein, il s'est même accroupi. Il est rentré en lui-même. Il a recentré en son Père. Pour faire face à ses peurs, pour faire face à ses accusations. Et il a eu l'inspiration. Que nous puissions faire ça dans les moments de peur aussi. Et donc, la peur fait qu'il ment. Hein, nous savons l'histoire, je ne vais pas vous la redévelopper. Hein. Et là, non, on ne touche pas à Sarai, parce qu'il y a le plan de Dieu. Dieu a déjà prévu, bien entendu, hein, omniscient, qu'il y aurait la naissance d'Isaac et toute la descendance. Et nous sommes les fruits, nous sommes les fruits de la bénédiction en Abraham, le père des croyants. Donc, vous le savez, hop, il repart au point de départ. Hein, il retourne où ? Au même endroit, en sortant d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Tiens donc, il dresse un autel. Oh, ça aurait été peut-être mieux de l'avoir dressé avant pour consulter Dieu. Cette fois-ci, il a dressé un autel. Bon, ça lui a appris. Des erreurs, Dieu nous fait apprendre. Hein. Et là, il a appris. Bon, il va recommencer encore à mentir une autre fois, encore en disant « c'est ma sœur ». C'est vrai, c'est sa demi-sœur. Bon. Mais voyez combien dans l'épreuve. Voilà. Bon, on n'est toujours pas au cœur du sujet hein, aujourd'hui sur le doute et comment faire face. Je suis terrible. Hein. Mais voyez, l'expérience en Égypte a porté ses fruits. Et donc, dans le passage que nous avons lu de Genèse 19, et même en reparler tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre Abraham et Abraham ? Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Vous le savez ? Oui. 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 Il y a une lettre qui a changé. Non, il n'y a pas une lettre qui a changé. Il y a une lettre qui a été introduite au milieu du nom en hébreu. C'est la lettre du souffle de Dieu qu'on trouve dans le nom imprononçable de Dieu. C'est Abraham, le souffle. Et il naît de nouveau. Vous rendez compte ? Alors, c'est sûr que nous, en français, on ne peut pas. Mais pour un juif, les rabbins, ils comprennent. C'est le souffle de l'Esprit de Dieu, ce souffle de la création qui vient au milieu du nom d'Abraham qui fait Abraham. Waouh! C'est pour ça qu'il lui dit, maintenant, marche droit. Je dis, attends, ça fait depuis 25 ans. Ah, maintenant, marche droit. Tu sais plus. Nouvelle naissance. Typiquement, la nouvelle naissance. À Sarah, il fait pareil. C'est aussi une lettre du nom imprononçable de Dieu, ce tétragramme, qui rentre. Waouh! Moi, ça me donne des frissons. Le souffle, la lettre divine, le fameux H, qui rentre. Alors, Abraham est créé de nouveau. Donc après, on comprend tout entre Ismaël et Isaac. l'enfant de l'esclavage, de l'esclave, qui est fait par la chair, Isaac, l'enfant fait par l'esprit. Bon, il fait se mettre au travail aussi, bien entendu. Hein? Mais vous comprenez, tout devient clair. Donc il va pouvoir devenir père, père d'une multitude. Et ce signe sera montré par la circoncision. Qui continue la circoncision. Maintenant, c'est la circoncision du cœur. C'est encore plus profond. Hein? Donc, ce Dieu change. C'est Dieu qui fait, hein? Qui fait glisser ce souffle de Dieu. Hein? Son souffle. Wow. Dans Abraham, pour qu'il devienne Abraham. Dans Sarai, pour qu'il devienne Sarah. Et tous les deux, pas qu'Abraham, parce que c'est un couple, parce que le projet de Dieu se fait avec ce couple. Hein? Pas de descendance s'il n'y a pas la femme, pas de descendance s'il n'y a pas l'homme. Hein? Puis à ce sujet, c'est dans un an, je reviendrai, la même saison, tu auras enfanté. On va se mettre au travail. Excusez-moi. Hein? Surtout qu'on a 100 ans, qu'il n'y a plus de désir, hein? Que ça se transforme en tendresse. Que sur le plan hormonal, hein, on n'est pas stimulé à libido. Hein. Bon, mais il a fallu hein, que le plan de Dieu se réalise et que l'homme et la femme fassent leur part. Donc double appel sur ce couple hein, qui concerne tant Abraham que Sarah. Donc Sarah ne reçoit pas seulement un nouveau nom, mais Dieu lui indique également que d'elle naîtra le fils de la promesse. Ça veut dire que si on relit les chapitres précédents, l'enfant de la promesse n'est ni Lot, comme c'était prévu au départ, par Abraham, hein, le neveu devenu fils adoptif dans Genèse 13, ni Eliezer, le fidèle serviteur, comme il dit dans Genèse 15, ni Ismaël, le fils d'Agar, comme il dit dans Genèse 16. Waouh, hein, il y a eu plusieurs prétendants. Mais c'est normal, Abraham a le désir de transmettre. Mais c'est bel et bien littéralement le fils d'Abraham et de Sarah, Isaac. Et ce n'est pas le fils d'Abraham et de Sarai. C'est le fils de la promesse par l'esprit, parce qu'ils ont été préalablement transformés. Et je dis tout cela pour qu'on comprenne ensuite cette situation de doute. N'oublions pas, en parlant ainsi de le souffle de Dieu matérialisé par cette lettre de la création du tétragramme qui entre, hein, c'est vraiment aussi, ça nous parle, nous en tant que croyants, nés nouveaux, nous ne sommes pas fils, enfants de l'esclave, c'est-à-dire d'Agar, mais de la femme libre, c'est-à-dire Sarah, comme le rappelle l'apôtre Paul dans Galates 4, 31. Alors, pour encore comprendre cette situation de doute du couple, pas d'Abraham seulement, mais de Sarah, ben on lit dans Genèse 16, les fameux épisodes où Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. » Ça, c'est son interprétation, hein. Combien de fois on interprète des événements qui vont à notre rencontre, hein, qui est contre nous, et on dit, mais ça, c'est l'Éternel. Il y a une réalité, c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Bon, je ne développe pas, mais bon, je vous laisse réfléchir. Viens, je te prie, vers ma servante. Super! Super, hein? Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham. Il écouta la voix de Dieu. Oui, il a écouté la voix de Sarai. Est-ce qu'il a consulté la voix de Dieu? Non. Parfois, nous prenons des décisions qui coûtent cher dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale ou notre vie professionnelle, parce que nous n'avons pas, nous sommes précipités. C'est tentant, hein? Là, on m'en propose une autre femme. Là, dans ce cas-là. Oh, c'est juste pour l'inséminer et puis que j'ai un enfant. Hein, oh, papa. que ce fut dur ensuite pour Abraham. Mépris, jalousie, discorde, le couple, Abraham et Sarai se disputant, se renvoyant l'un à l'autre, la responsabilité de cette erreur. Vous avez lu les passages ? Hein ? Waouh ! C'est pas un an que ça a duré. 13 ans. 13 années. C'est long, 13 années, quand c'est comme ça, hein, dans le couple. Bon, je vous rassure, on n'aurait pas pu faire mieux, hein, à leur place, sûrement. Il est dit qu'Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Et vous avez remarqué, dans Genèse 17, il est précisé quel âge pour Abraham lorsque Dieu lui change son nom. 99. 13 années de silence. 13 années de silence de la part de Dieu. Ben, t'assumes, hein. Tu l'as voulu, je l'ai donné, hein. T'assumes. Pourquoi 13 années ? Mais à partir de 13 ans, à cette époque-là, c'était la maturité pour l'enfant. Il était adulte. Et donc, ça y est, tu n'es plus responsable de l'enfant pleinement. C'est lui qui est responsable de ses actes, de ses choix. Bon. On revient au sujet de mon projet, là, Abraham. Déjà, oui, marche droit. Marche droit. Écoute-moi, marche droit. Et on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Bien sûr qu'il y a l'appel de Dieu. Vous savez, il faut l'esprit de Dieu. Hein. C'est là qu'il y a ce changement de nom. Marche devant ma face. Hein. C'est-à-dire qu'on se parle. On se voit, on s'écoute et soit intègre, marche droit. Donc on voit ce silence de 13 ans dans la vie d'Abraham par rapport à Dieu. Puis ensuite, donc, Dieu va parler. Donc quand je reviens sur ce passage de Genèse 17, à l'origine de cette exhortation, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». La révélation qui se fait ici est la révélation du Dieu Tout-Puissant. Tout est possible. Tout est possible. J'étais guéri de manière surnaturelle en 15 secondes. Je ne vais pas le développer, autrement on ne va pas finir. Dans une situation critique, double entorse, et il fallait continuer à bosser en pleine forêt. Et j'ai crié à Dieu et je dansais de douleur autour des arbres que j'avais abattus, parce qu'il fallait chauffer, j'avais plus de sous, et là, disparu. 2 heures de travail ensuite en louant Dieu, et en témoignant après à ma famille qui m'a pris pour un fou. J'ai témoigné. Je suis le Dieu Tout-Puissant, voilà. Et Dieu établit son alliance. Et Dieu dit bien, je bénirai Sarah. Et c'est d'elle que sort un fils. Et que fait Abraham quand Dieu dit ça ? Il rit. Des fois, nous rions pour cacher notre gêne. Non ? Ça ne arrive pas à vous ? On rit parce qu'on est gêné, parce qu'on n'y croit pas. C'est loufoque, là. Là, c'est le top, là. Non, mais... Oui, Abraham, il rit. Attends, tu n'y es pas, mais tu as vu l'âge que j'ai, et ma femme, je n'ai plus de désir, elle est sèche. Non mais attends, arrêtons. Il rit. Il ne prend pas Dieu au sérieux. Mais Dieu, il rit aussi. L'humour de Dieu, vous avez vu l'humour de Dieu après ? Il lui dit, ton fils s'appellera, il rit. T'as ri, mais attends, moi le nom que j'ai donné, c'est Isaac, il rit. Vous vous rendez compte ? Puis à Sarah, pareil, hein, nous savons, alors c'est le prochain message, j'avais complètement oublié quand je l'ai donné ce message à Brignou, que j'ai un peu marché sur la bande du prochain message. Mais à Sarah, c'est pareil. Quand les trois personnes arrivent, cette théophanie, les trois personnes qui arrivent. Et il dit, mais tu vas être... Elle rit. Il dit, t'as ri. Non, je n'ai pas ri. Encore, vous voyez, la peur. hein, au Mont. Dieu ne l'a pas voulu, hein. Tu ris. Mais il s'appellera Isaac, il rit. Vous vous rendez compte, chaque fois que vous... Alors, moi, disons que, voilà, vous voyez Abraham et Isaac, bon, quel nom il lui donne ? Il rit. Ça renvoie à quoi ? À mon manque de foi. Chaque fois qu'ils vont appeler Isaac, il rit, viens ici. Toute leur vie, ils se rappelleront et de leurs doutes et de que Dieu est tout puissant. C'est pas merveilleux ça ? C'est pas pour les humilier que Dieu l'a dit, mais il s'appellera Henri. Mais c'est pour montrer, je suis puissant. Je suis capable de faire des choses qui, humainement, c'est impossible. Donc, non seulement ils se rappellent, ça va les aider à se rappeler que, bah oui, je suis faible, je doute parfois, mais je peux me confier en un Dieu qui est tout puissant. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est le monde de Dieu. Donc, je vous relirai hein, ce passage qui, en plus, vous permettra de, pour le prochain message sur cette série des hommes, des femmes qui doutent. Hein, donc, là, Sarah, elle rit en elle-même. Je suis trop vieille, j'ai plus de désir. Hein, mon Seigneur est aussi vieux. Mais non. Il dit, j'ai pas ri. Dieu dit, mais si t'as ri. Dieu nous aime. Non ? Oui, je sais, on n'est pas des anglo-saxons américains noirs. Yes, continue, frère, continue, pasteur. Voilà. Donc, c'est merveilleux que se rappelle chaque fois que Isaac va être nommé hein, par ses parents. Il rit. Oui, je sais, moi aussi j'ai ri. Voilà. Et vous savez, cette leçon va être retenue. Parce que, comme vous voyez dans Genèse 28, premier verset, les suivants, il est écrit que Isaac bénit Jacob pour sa recherche d'une femme selon le cœur de Dieu. Et Isaac dit que le Dieu tout-puissant, El Shaddai, te bénisse, te rende féconde, te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples qui te donne la bénédiction d'Abraham. Regardez-moi ça, cette transmission spirituelle. C'est merveilleux, non ? À toi et ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Petite parénthèse, la énième, dans Exode 6, premier verset, l'Éternel Dieu va réaliser les miracles devant Pharaon pour libérer son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse ? Je suis... Voilà, c'est difficile, c'est hein, l'imprononçable, hein. Parce qu'humainement, ils ne sont pas capables de pleinement comprendre cette dimension du tétragramme. Je suis celui qui est, celui qui suis. C'est, non. Mais ça monte bien aux limites. Mais nous connaissons que partiellement. Un jour, nous connaîtrons pleinement. Amen. Waouh. Et dit, Dieu dit à Moïse, je suis, on va dire l'Éternel, hein. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu El Shaddai, Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, c'est-à-dire sous mon vrai nom, l'Éternel. Voilà. En fait, celui qui est l'existant. Nous ne le connaissons que partiellement. Mais déjà, le peu qu'on connaisse, c'est extraordinaire. Non ? Pour le serrer dans notre cœur, pour tenir le coup. Amen ? Et quand l'épreuve... Moi, je sais je sais comment ça s'est ma vie. Dieu m'a... Par songe, j'ai eu une vision pour avertir mon père hein, avant qu'il meure. Et par songe, je sais ce qu'il en est de ma vie. Et ça me... Waouh ! Le jour où ça va arriver, je sais que je n'ai pas à avoir peur. Et ça, c'est merveilleux. Waouh, ça, vraiment, je le sers dans mon cœur. Hein. Plusieurs le savent autour de moi, dans ma famille. Voilà, ce qui va arriver. C'est pour ça que quand je vois un Dietrich Bonhoeffer pasteur et théologien, on vient lui annoncer, on vient te pendre. Hitler a donné l'ordre de te pendre, qui ne veut pas que tu survives après ça, la mort d'Hitler. Vous savez ce qu'il a répondu à Auschwitz, ce pasteur qui était bien dans une prison, une cellule à part? Il dit, la vraie vie commence. Alléluia, la vraie, il dit, la vraie vie commence. Waouh. Il avait appris à... Aïe, j'ai plus de... C'est une pause publicité, hein. Ça, j'ai toujours été sérieux. Yes. Je vais être fini. Allez. C'est bon. Alors, donc vous voyez là, cette révélation, c'est que c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, face à cette impossibilité humainement, physiologiquement d'avoir des enfants. Il dit certainement, alors il y avait, on a vu que... quand Dieu dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude, oui, qu'Ismaël vive. Non, mais je m'en occupe d'Ismaël. Il sera père de prince, alors que Isaac sera père de roi. Alors, pour finir cette exhortation et apporter une note un peu plus pratique, hein, que faire face à une révélation humaine, humainement impensable, comme ce fut le cas d'Abraham? Premièrement, Dieu n'a pas dit à Abraham, dit, oh, tu oses douter de moi, hein, ça, qu'est-ce qui se passe là, hein? Tu ne crois pas à ma parole? Je viens de te révéler. Hein, je t'ai conduit depuis à 75 ans, je t'ai appelé, je t'ai béni, je t'ai gardé, tu as fait des bêtises en Égypte. Non, non, non. Dieu ne reproche rien. Heureusement, hein? Non? Non, bah, vous n'avez pas fait de bêtises, vous, après votre conversion, hein? Hein? Pas fait comme moi. Alors, que faire? Le psaume 73, au verset 12 et suivant, m'interpelle. 73, pensez à la Savoie, comme ça vous en souviendrez. J'aurai des moyens mémotechniques. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est en vain que je marche droit avec toi, et tu vois, mon collègue, hein, il a une augmentation, il passe à un poste supérieur au mien, alors que je suis plus qualifié que lui. Seulement parce que je suis chrétien, peut-être parce que j'ai dit la vérité, que je n'ai pas voulu dire des mensonges au travail, hein, au niveau commercial, ou arranger les choses. Tout peut arriver, nous le savons, hein, on ne sait rien. Et là, il dit, le psalmiste, les méchants, ils sont toujours heureux, ils accroissent leur richesse, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, c'est-à-dire que j'ai marché droit. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ce qu'a fait Abraham. Quand il agit bien, c'est-à-dire pas dans la précipitation, et là, ça me dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, je sais que c'est pas la... notre 21e siècle n'invite pas à prendre le temps de réfléchir, de se poser. Réfléchir, ça veut dire littéralement rentrer en moi et me voir face à un miroir. Hein? La réflexion, réfléchir. Que la lumière de Dieu puisse réfléchir pour que je puisse comprendre ce qu'il en est de la situation. Prendre le temps de se poser, de réfléchir. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pourquoi ? M'éclairer. Pour que les rayons de Dieu viennent éclairer la situation. La difficulté fut grande à mes yeux. Ah oui, ça, on ne dit pas que c'est facile. La difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré, où ça ? Dans les sanctuaires de Dieu. La réflexion du croyant est importante dans l'épreuve. Dans le fait que on voit que c'est que tout se passe bien pour les méchants, que pour nous c'est difficile, qu'on a des oppositions, que Dieu nous appelle des fois à des actes de foi qui dépassent notre entendement humain. Le psalmiste dit, quand j'ai réfléchi, et ce fut grande difficulté à mes yeux de réfléchir, de se poser pour être éclairé. Il est éclairé quand ? Ben quand il est allé jusqu'à entrer dans le sanctuaire de Dieu. Et là, ça change tout. Et il y a cette persévérance à avoir. C'est pas facile, le combat spirituel. Je te donne un exemple. Malgré que je sois prof, ma patronne au-dessus de moi m'a fait un harcèlement moral pendant 13 mois. Et quelques mois avant que ça s'arrête, Dieu m'a dit, ça va s'arrêter. Et il y a des moments, je doutais. Et j'avais ces pensées. Et donc, quand je faisais un travail qu'elle me disait, mais c'est rien, c'est nul. Et j'avais fait un moment un travail où j'étais en train de ramasser les champignons pour enseigner. Et je disais, voilà, tout ce que j'ai ramassé, des espèces rares, des espèces importantes dans les confusions, j'ai des amanites mortelles, j'ai ceci, j'ai cela, et tout. Si elle me dit quelque chose, j'ai toute la preuve, là. Point, je dirais ça, point final. Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai dit point final dans ma tête? J'ai été cloué au sol. Et j'ai mangé la terre dans ma bouche. Et il n'y avait rien devant moi. J'étais plaqué au sol, et la bouche dans la terre avec la terre dans la bouche. Et tous mes champignons cassés. Et là, il y a la voix qui me dit, je ne t'ai pas dit que ça allait s'arrêter. Je ne t'ai pas dit. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ah, une belle correction de la part de Dieu. Je suis repenti. Et chaque fois que les pensées venaient, j'avais une demi-heure à trois quarts d'heure de combat spirituel pour bénir ma patronne. Et chanter louange de Dieu et refuser les paroles et rappeler ce que Dieu m'avait dit, et ça mettait des fois une demi-heure à trois quarts d'heure pour que ma chair puisse être soumise à l'Esprit de Dieu et à avancer. Dur. Puis ça s'est arrêté comme Dieu avait dit. Et j'ai appris, comme Abraham, des fois on fait des bêtises, des fois on va vers l'Égypte, on va vers la manière de se conduire comme en Égypte, c'est-à-dire comme le monde, hein, et Dieu y reprend. Il m'y reprend toujours avec amour. Entre temps, je me suis cassé les côtes, bien sûr, quand j'étais plaqué au sol. Et donc, pendant un mois, je me suis souvenu de ce que je n'avais pas écouté la voix de Dieu et cru en Dieu. Donc, il est important pour conclure de se poser, de faire halte, de rentrer en soi, faire que mon âme puisse parler à mon âme. Cette réflexion de renvoyer. Ainsi, tôt ou tard, je suis amené à entrer dans le sanctuaire de Dieu pour un face-à-face avec lui, qui va m'éclairer et tout change à ce moment-là. Oui, c'est un travail d'introspection qui me ressentent sur celui qui est. Et Abraham a dû le faire également face à cette difficulté. Et il s'en rappellera toujours quand l'enfant est né, de dire « Bienvenue, je t'appelle, je ris. » Vous savez, c'est le cas aussi de l'apôtre Pierre dans Actes 10, 19, qui réfléchit sur la vision surprenante que Dieu vient lui montrer, où il doit dire « Mais tu y manges des animaux vus comme non comestibles, littéralement en hébreu, qu'on a traduit nous par impur. Hein, » et l'esprit lui montre que c'est pour lui dire « C'est que tu as le droit de rentrer. Tu ne seras pas souillé si tu rentres dans une maison d'un païen pour annoncer l'évangile. » Alors là, c'était complètement interdit, là aussi, mais voilà, ça c'est merveilleux. Oh, que Dieu, par son Esprit Saint, nous conduise à de tels agissements. Tant du psalmiste, tant de Pierre qui ne comprend pas cette vision, tant d'Abraham, il dit, mais c'est de la folie, j'en ris, hein, de devoir une femme qui est stérile, combien de fois j'ai eu des relations avec elle, j'ai jamais eu d'enfant, hein, et là, oui, c'est possible. Le Fils de la promesse. Que Dieu nous conduise et que dans les situations où notre foi est éprouvée et où notre chair aimerait aller au plus facile, au plus tranquille, alors c'est contraire à l'esprit, que Dieu nous vienne en aide. Nous avons besoin de nous armer de ce réflexe spirituel dans les temps à venir. Que Dieu nous garde et le fera, mais que nous, on demeure en celui qui nous garde. Amen. Merci pour votre patience.